Voici le podcast Paul Klee's Playlist du Centrum Paul Klee. Paul Klee était peintre, mais il était aussi musicien. Il jouait du violon, dans un orchestre, dans un quatuor à cordes, mais aussi avec sa femme Lily qui était pianiste. Les contemporains disent qu'il jouait bien, mais nous ne le savons pas vraiment, il n'y a aucun enregistrement de lui. En revanche, nous savons tout de même ce qu'il aimait jouer ou aussi ce qu'il aimait écouter. Et nous savons également qu'il commentait de temps en temps les concerts avec une plume acérée. C'est tout cela et bien d'autres choses encore que je vais vous présenter de temps en temps. Je suis Marianne Keller, la responsable des archives du Centrum Paul Klee, et voici le podcast Paul Klee's Playlist. Dans cet épisode, Paul Klee en tant que critique musical. Que fait un jeune lorsqu'il doit enfin gagner un peu d'argent après sa formation? Eh bien, il ou elle travaille. C'est ce qu'a fait Paul Klee lorsqu'il est retourné chez ses parents à Berne en 1901, après ses études à Munich. Comme il jouait bien du violon, il a tantôt pu faire partie de l'orchestre de la Société de musique de Berne en tant que membre supplémentaire. Il aimait ce travail, mais n'était pas toujours satisfait de la qualité des concerts. Lorsque les billets gratuits pour l'opéra et les concerts lui ont été retirés, il a renoncé à ses engagements et s'est consacré uniquement à l'art pendant un certain temps. Par chance, un de ses bons amis était l'éditeur du Berner Fremdenblatt, un hebdomadaire destiné aux touristes dans lequel on discutait entre autres des événements culturels. Son ami proposa à Paul Klee un poste de critique musical et Klee, eh bien, accepta immédiatement. Notamment parce qu'en tant que journaliste, il recevait des billets gratuits pour toutes les représentations du théâtre municipal de Berne et pour les concerts de la Société de musique de Berne. Et c'est ainsi que Klee passa désormais une grande partie de son temps libre à écouter de la musique de chambre et des concerts symphoniques et assista régulièrement à des représentations d'opéra. Son premier compte-rendu est paru le 24 octobre 1903 pour l'opéra La fille du régiment de Gaetano Donizetti. Voici un extrait de l'opéra La fille du régiment de Donizetti. Dans sa toute première critique d'opéra, Klee s'en prenait durement aux chanteurs et chanteuses. Parmi les meilleurs, il écrit, il y avait décidément l'exécution du rôle-titre par Mademoiselle Gell, qui se révélait à cette occasion d'une force efficace, musicalement sûre et artistiquement incontestable. De notre côté, on constate toutefois des limites. Son timbre fait son devoir. Il est là, il s'élève avec mesure et se retire au bon endroit. Il n'est pas impur et pas non plus vraiment inesthétique. Mais il n'a pas vraiment de plaisir à être là. Il ne se complaît pas en lui-même, même dans les moments forts comme l'exige en fait le cantabile italien. Et Klee jugeait ainsi un autre chanteur. Il y a de la voix, mais pas d'école. Le flou rythmique va de pair avec l'extrême manie de l'interprétation. Et il s'est également montré critique à l'égard du chœur et de l'orchestre. On ne peut pas encore les nommer tous les deux d'un seul souffle, écrit Klee, bien que le chœur semble vouloir faire des progrès. En effet, la première intervention du chœur d'homme était trop basse, alors que le reste était, selon les mots de Klee, pur et frais. L'intonation, c'est-à-dire le bon accord, est très important pour Paul Klee et cela l'agaçait lorsque les musiciens et les chanteurs jouaient ou chantaient de travers. Après une représentation de l'opéra Fidelio de Beethoven, il écrit dans son compte-rendu « En ce qui concerne le premier acte, nous devons nous plaindre de l'intonation impure des solistes, sous laquelle, par exemple, le canon extraordinairement beau est complètement tombé. » À l'exception de M. Mirsalis, tous les chanteurs du mercredi chantaient atrocement trop bas. Je vous épargne maintenant un ténor chantant trop bas, mais il y a un extrait de l'ouverture de Fidelia à écouter. rédiger des critiques est une tâche exigeante. D'une part, on veut honorer la performance de la personne qui se présente, mais d'autre part, il faut aussi pouvoir nommer les choses qui n'étaient pas bonnes. Clé a pris cela à cœur et malgré toutes les critiques, il a toujours trouvé quelque chose de positif à écrire. Dans ses lettres à sa fiancée et dans son journal intime, il jugeait souvent beaucoup plus sévèrement ce qu'il avait entendu. « En ce qui concerne les critiques du théâtre, écrivit-elle à Lily en 1903, tu dois te mettre dans des conditions très spéciales, assez modestes, et ne pas t'étonner si elles diffèrent quelque peu des déclarations critiques privées. » En janvier 1904, il a cependant rendu compte de manière tout à fait positive de l'opéra Hansel et Gretel d'Engelbert Humperdinck. De l'interprétation, on retiendra surtout qu'elle est, sinon la meilleure, du moins l'une des meilleures de 16 ans. Les chanteurs et l'orchestre se sont littéralement délectés des effets brillants que Humperdinck, un maître de l'empreinte bleue, a concocté. Humperdinck s'est en effet maîtrisé l'appareil orchestral wagnérien de manière autonome, sans paraître ridicule. Et tout cela pour illustrer une histoire pour enfants, comme l'écrivait Klee. C'est beaucoup de travail accompli et il y a encore bien d'autres choses à ajouter, comme l'utilisation raffinée des mélodies populaires. Humperdinck était l'un des compositeurs de la fin du 19e siècle qui s'est inspiré de la musique de Richard Wagner. Ce qui lui a valu un grand succès. Si Hansel et Gretel a connu un tel succès, c'est notamment parce que le célèbre conte fée a été mis en musique de manière suave. Cela a également plu au public bernois. Voici un petit extrait de l'opéra Hansel et Gretel de Engelbert Humperdinck. Le théâtre municipal de Berne a aujourd'hui à peu près la même apparence qu'il y a 120 ans et, comparé à l'Opéra de Munich, c'est un petit établissement. Aussi bien en ce qui concerne la scène que l'espace réservé aux spectateurs. Paul Klee ne cessait d'attirer l'attention sur des conditions modestes, mais ne parlait pas seulement de la taille de la salle, mais aussi et surtout de la qualité de représentation. Lorsque, par exemple, l'opéra de Rossini, Le Barbier de Séville, était un peu trop divertissant, Klee pouvait se montrer très clair. Pour lui, cet opéra était une œuvre d'art majeure, comme il le disait, qui ne devait pas être simplement transformée en opérette. En lorsque des bicyclettes et d'automobiles apparaissaient sur scène, il s'adressait celui-là à l'adresse d'une 4e, 5e ou 6e galerie, c'est-à-dire aux places réservées aux clients moins fortunés, qui n'existaient pas du tout à Berne. De telles idées de mise en scène témoigneraient du fait que, du côté des dirigeants, une œuvre d'art existant à côté de Mozart a parfois été battue à plate couture avec une opérette viennoise, sans qu'il y ait eu de force majeure pour intervenir. Paul Klee a travaillé pendant près de 3 ans comme critique musical et, au fil du temps, il a semblé s'adoucir un peu. Ou bien les musiciens s'amélioraient-ils et avaient-ils donc moins de choses à critiquer? Dans l'une de ses dernières critiques datant de décembre 1905, il se montrait en tout cas très satisfait de la représentation de l'opéra Undine d'Albert Lortzing. Elle était riche en magie scénique, populaire dans le meilleur sens du terme et la musique, sans être trop exigeante, était néanmoins charmante, également expressive même, dans le cadre modeste, extrêmement stylée. Et il a même avoué qu'il avait effectivement passé un bon moment. D'une certaine manière, cela sonne presque comme une excuse. Paul Klee n'assistait pas seulement à des opéras, mais allait aussi à des concerts de musique de chambre et symphonique. Il pouvait alors se concentrer entièrement sur la musique et écrivait des critiques sans devoir les adapter aux conditions bernoises. Les critiques sur les concerts d'abonnement, disait-il à Lily, sont à prendre au pied de la lettre. Les programmes des concerts symphoniques étaient généralement composés d'œuvres orchestrales ou de parties d'œuvres orchestrales ou de concerts de solistes et de musique vocale, c'est-à-dire de lieder ou d'air d'opéra. En comparaison avec les concerts symphoniques d'aujourd'hui, c'est remarquable. On n'entend en effet presque plus de chants aujourd'hui et n'arrive même plus qu'un pianiste et une chanteuse se retrouvent sur scène sans orchestre. Il y a 120 ans, le public bernois a donc assisté à des concerts très colorés et variés. En tant que critique de concert, Pauclay était tout à fait dans son élément. Après l'exécution de la sérénade de Mozart, une petite musique de nuit, dont vous venez d'entendre le début, il a estimé que brave, efficace, pur et bien ensemble ne suffisait pas à en faire une bonne représentation. En outre, le rythme était trop rigide et il manquait de vivacité et d'esprit. Sans les instruments à vent, il est évidemment plus difficile de faire ressortir les différentes couleurs et les différences dynamiques au sein de l'orchestre. Selon Clay, dans la musique à cordes, il faut recourir aux subtilités. Par exemple, utiliser parfois un pianissimo dans le piano ou alors travailler les contrastes grâce à des sages libertés rythmiques, ce qui n'a pas été le cas dans les deux cas. L'équilibre entre les cordes et les vents dans l'orchestre le préoccupait également. Il rapporte un jour que les cordes ont enfin atteint la force nécessaire pour tenir tête à l'orchestre d'instruments à vent, mais, poursuivit-elle, elles en abusent au piano, de sorte que certains instruments à vent ne peuvent pas jouer leur solo aussi finement qu'ils le souhaiteraient. Deux semaines après cette expérience, le concert symphonique suivant était déjà au programme et, bien qu'il louât le programme et, dans l'ensemble, la qualité, il trouvait que certaines choses n'étaient pas réussies. Il était prévisible que les musiciens seraient dans l'ensemble à l'auteur de leur tâche, écrivait-il, ce n'est qu'en ce qui concerne la pureté, qu'il y a des souhaits à formuler. Le premier corps et la première flûte avaient également des avis différents sur l'accord, mais il n'était pas toujours possible de décider qui avait tort. La symphonie a surtout souffert de ses défauts par endroits et lorsqu'une amélioration s'est produite, elle était malheureusement déjà terminée. Sa véritable passion se manifestait lorsqu'il rendait compte des concerts de musique de chambre. Le fait qu'il avait lui-même une grande expérience pratique a certainement joué en son faveur. Dès son adolescence, Pauclay a joué dans des quatuors à cordes et il a même appris à jouer de l'alto, afin d'avoir, comme il le disait, un peu plus de variété dans le quatuor à cordes. Ses comptes rendus de concerts avec des quatuors à cordes, en particulier, sont très nuancés. En cela se lit par exemple ainsi dans la description du quatuor à cordes en ré mineur de Mozart. Le premier violon Jan a surmonté la difficulté de la détermination du tempo du premier mouvement en donnant à la figure de triolet de double croche, qui n'aurait pu être traitée de manière plus organique qu'à la fin du développement, une signification plus plane, ce qui lui a permis d'éviter une largeur préjudicable à l'ensemble. Thank you. le Quartetto Casals avec un extrait du Quatuor à cordes en ré mineur de Mozart, que Klee avait beaucoup apprécié lors d'un concert en novembre 1903. Cette appréciation montre que Klee était très attentif et pouvait saisir des détails qu'un éditeur inexpérimenté ne remarquerait pas forcément. Mais peut-être avait-il emporté la partition en concert et avait-il en quelque sorte lu le morceau avec lui. Lors de la discussion d'un quatuor à cordes de Beethoven, Paul Klee a même écrit qu'il connaissait bien l'œuvre et qu'il voulait donc dire un mot en rapport avec la psychologie de cette magnifique œuvre d'art. Le premier mouvement en particulier ne lui plaisait pas. Il était joué de manière trop élégante et trop peu axé sur une simple intériorité spirituelle, selon lui. Pour cela, il aurait fallu un tempo plus large. Quant au dernier mouvement, il a constaté que le final souffrait d'une rythmique trop fugace et apparaissait plus comme une esquisse géniale que comme une création conséquente. Pour Klee, la structure formelle devait toujours être bien reconnaissable. N'est-ce pas un peu le peintre Paul Klee qui transparaît ici, pour qui la forme, malgré toute sa liberté, devait toujours être perceptible d'une manière ou d'une autre? Paul Klee a quitté son poste de critique musical pour le Berner Fremdenblatt au printemps 1906, car son ami a démissionné en même temps de son poste de rédacteur. Au cours des 3 années où il a critiqué des spectacles, il a entendu et vu beaucoup de choses et une certaine lassitude s'est sans doute installée. Le fait que ses critiques n'aient pas toujours été comprises a peut-être aussi contribué à ce qu'il ne veuille plus continuer. En novembre 1905, il avait écrit à Lily « Il y a ici aussi quelque chose de pas tout à fait inintéressant, à savoir comment les actionnaires du théâtre se comportent face à nos critiques. » Ces stupides inconscients ne pensent plus que le théâtre est en premier lieu une institution artistique et voient donc dans notre critique un préjudice. Pour Paul Klee, les critiques musicales n'étaient pas des faveurs, mais une confrontation sérieuse avec le concert ou l'opéra, toujours conscient que la vie musicale de la ville de Berne n'était pas au même niveau que celle qu'il connaissait à Munich. Voici le podcast Paul Klee's Playlist du Zentrum Paul Klee. Mario Reinhardt est responsable de la technique. Moi, je m'appelle Marianne Keller.